Alors, bienvenue dans le cours en esprit et en vérité. Ce matin, on va essayer de faire un petit sprint de rattrapage, parce qu'on a beaucoup de matière à couvrir dans cette session. Je vous invite à prendre place et à faire comme si Jonathan n'existait pas. C'est bon? On va dire un mot de prière, d'accord? Bien, Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Ta parole qui nous révèle qui tu es dans ta grandeur, dans ta beauté, dans ta majesté, Seigneur, dans ton amour. Ta parole qui nous révèle comment nous approcher de toi, Seigneur. Parce que c'est un cours sur l'adoration, on veut apprendre à te dire que nous t'aimons comme toi tu veux l'entendre, Seigneur. On veut apprendre à t'approcher en réponse à ce que tu nous fais connaître sur toi, Seigneur. Seigneur Jésus, ta venue est venue éclairer comme jamais auparavant dans l'histoire. Nous faire connaître la personne de Dieu comme jamais auparavant dans l'histoire. Alors Seigneur, enseigne-nous à adorer. Nous voulons nous approcher de ton Père et de notre Père, comme toi tu le faisais, Seigneur. On veut apprendre à t'aimer notre Dieu et à te célébrer. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. OK, alors, simplement pour... je vais comme résumer un peu ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament pour conclure, puis on va commencer le Nouveau Testament. On est en train de faire juste une petite mise à jour. Dieu voulant, les vidéos du cours vont être mises aussi sur le site web. Donc, vous pourrez trouver sur le site web les vidéos du cours. Là, pour l'instant, il y a juste la version audio et puis les notes. Mais je vous encourage à, comme on construit semaine sur semaine, je vous encourage à aller écouter ce que vous auriez pu manquer dans les semaines précédentes. Maintenant, on revient après 2 semaines de pause, donc on va juste se remettre un petit peu dans le bain. Lors de la dernière leçon, on est en train de terminer, de voir certains grands principes qu'on veut tirer de l'Ancien Testament pour comprendre l'adoration. Une des choses qu'on a vues jusqu'à présent dans l'Ancien Testament, c'est que le Dieu de la Bible s'est fait connaître à nous. Donc, un grand principe dans la Bible, lorsqu'on pense à l'adoration, c'est qu'on n'adore pas Dieu seulement selon nos termes et conditions. On approche Dieu comme il s'est révélé à nous. Dieu a parlé. On n'est pas en train d'adorer un Dieu inconnu. On est en train d'adorer un Dieu connu parce qu'il s'est fait connaître à nous. Et donc, c'est pour ça qu'on va vers les Saintes Écritures, pour découvrir ce Dieu-là tel qu'il se révèle à nous. Et puis, on a vu ensemble que cette relation-là d'adoration se fait dans le cadre d'une alliance. Ce matin, on commence une nouvelle série dans 1 Pierre pendant les exposés bibliques. Et puis, vous allez voir le lien juste déjà dans les deux premiers versets de 1 Pierre. 1 Pierre 1, les versets 1 et 2. Il y a une référence énorme à l'alliance dans l'Ancien Testament. Vous allez pouvoir faire le lien avec le cours ce matin. Donc, Dieu se révèle et Dieu prend l'initiative donc de se révéler, mais aussi de préparer des êtres humains à entrer dans une relation d'adoration avec lui. C'est ça qu'on voit dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui prend l'initiative d'aller racheter le peuple d'Israël. Ces principes-là sont permanents dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, c'est encore une fois la même idée. On va même le voir, ça aussi, on va le voir dans Pierre. L'idée qu'il nous a choisis. Donc, c'est Dieu qui prend l'initiative de se préparer un peuple qui va entrer dans une relation avec lui. Et dans l'Ancien Testament, on est initié à la notion d'une alliance. Donc, le peuple est invité à entrer dans une alliance avec Dieu. L'adoration, ça commence par un Dieu qui se révèle, un Dieu qui prend l'initiative de se révéler, et puis un Dieu qui nous invite à entrer dans une alliance avec lui. C'est intéressant. C'est quand même des choses qui sont très, très, très relationnelles. On l'expérimente, nous, humainement, dans nos rapports humains. Je suis en relation avec quelqu'un qui veut bien se faire connaître à moi. Si la personne ne veut pas, si la personne reste fermée, la relation va être assez superficielle, on n'ira pas tellement loin de ça. La personne doit accepter de prendre une initiative pour se faire connaître. Et puis, on va aller dans des relations qui vont être à long terme, lorsqu'il y a une espèce d'entente, de respect mutuel qui est là. La plus belle de ces illustrations-là, évidemment, c'est le mariage. Et donc, je suis entré dans une alliance avec mon épouse. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, toute idée d'adoration porte en elle-même l'idée d'une relation. Quand je ne connais pas la Bible, et que je pense à l'idée de « je m'en viens adorer un Dieu », je peux avoir toutes sortes d'images, parce que nos références culturelles peuvent venir de n'importe où, puis là on voit des gens qui adorent des idoles, qui se prosternent devant des idoles, puis tu es devant un objet, c'est fade, comme Dieu le dit dans sa parole, ça ne répond pas. Mais dans la Bible, l'adoration, ce n'est pas ça. Fondamentalement, c'est une relation avec celui qui mérite toute notre attention. Fondamentalement, c'est ça. D'accord? Ensuite, on a vu un peu du langage, le langage de l'Ancien Testament, puis on a vu qu'il y avait des distinctions. On avait commencé à voir des distinctions avec les autres religions ou les autres croyances de l'époque. Entre autres, ce qu'on était en train de voir à la fin de la dernière leçon, c'est au niveau du langage. Dans l'Ancien Testament, la version grecque de l'Ancien Testament, il y a un mot qui est utilisé que les autres peuples n'utilisaient pas dans leur service à Dieu. C'est le mot « doulos ». Doulos, pour nous, ça sonne comme douleur. Hein? Bon, ben, pensez à doulos, pensez à esclave. Okay? Parce que c'est ça que ça veut dire en fait en grec. Un doulos, c'est un esclave. Mais c'est un esclave dans le sens le plus complet du terme, là, dans le sens que c'est un serviteur qui ne s'appartient pas à lui-même, mais qui appartient à son propriétaire, qui n'est pas sa propre propriété. Et puis, dans la littérature de l'époque de l'Ancien Testament, on ne retrouve pas ce genre de langage-là pour parler de la relation avec leur Dieu. Les païens, ceux qui adoraient des idoles, ne se voyaient pas comme des doulos de leur Dieu. Ils les servaient, puis ils étaient dans une transaction avec eux. Je vais t'offrir des offrandes, puis tu vas faire que mes récoltes vont prospérer. Puis... Mais ce n'est pas une relation comme une alliance, comme nous on a fait, comme le peuple d'Israël faisait avec Dieu. Et il n'y avait pas cette notion de « je m'abandonne complètement à ce Dieu-là ». Je deviens son doulos, je deviens son serviteur. Alors que lorsque j'arrive avec le Dieu de la Bible, il y a vraiment cette idée que le peuple d'Israël, puis là c'est un langage qui peut choquer vos oreilles, mais c'est un langage biblique, le peuple d'Israël est devenu la propriété de Dieu. Il ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à Dieu. Oui. Puis je peux faire encore une fois le parallèle avec le mariage chrétien. L'apôtre Paul va dire d'un époux et d'une épouse que le corps de l'époux ne lui appartient plus, il appartient à son épouse. Puis le corps de l'épouse ne lui appartient plus, il appartient à son époux. Cette alliance-là est tellement engageante que je ne m'appartiens plus à moi-même. Dans un sens, j'appartiens à l'autre. On devient une seule chair. Et donc, ça parle à la fois de l'engagement de Dieu envers son peuple. Dieu met son nom sur le peuple d'Israël. Hein, la semaine dernière, lorsque je parlais un peu de la vision, j'ai cité Josué 7:9. Puis lorsque Dieu est irrité contre le peuple d'Israël, se prépare à châtier le peuple d'Israël, Josué plaide avec Dieu puis il dit « Mais que feras-tu pour ton grand nom? Parce que tous les peuples environnants savent que ton nom est sur ce peuple. » Ça nous donne la mesure de l'engagement de Dieu envers son peuple. Il l'a attaché d'une manière permanente, son nom avec ce peuple-là. Et donc, il réclame, il demande en retour que ce peuple-là s'abandonne entièrement à lui, devienne ses doulos. Puis ça m'arrive des fois de discuter avec des chrétiens qui disent « Ouf, Yannick, j'aime pas ça l'idée qu'on est des esclaves de Dieu. Tu sais, c'est comme, c'est trop, je suis pas bien avec ça, c'est une mauvaise image. Tu » sais. Mais c'est parce que ce n'est pas la seule image qui résume notre relation avec Dieu. On est les bien-aimés de Dieu. Il a donné son Fils pour nous. Moi, quand je me lève le matin, je repasse dans mon esprit, dans mon temps de prière, je repasse des éléments qui disent mon identité. Fait que j'aime me dire, je suis un saint qui pêche parfois. J'ai besoin de me le rappeler parce que dans ma tête, je suis tellement un pécheur, mais j'aime me rappeler, je suis un saint qui pêche parfois. Ça, c'est une des choses que je fais. Une autre des choses que je me rappelle, c'est, je prends le temps de le dire, Seigneur, je veux me rappeler aujourd'hui, je suis un prince héritier dans la maison de Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit que je suis un co-héritier avec Christ, que je suis un frère de Jésus. Donc, j'ai besoin de voir toutes les épreuves de ma journée, tout ce qui peut arriver, toutes mes inquiétudes à travers cette lentille-là. Puis je dis, Seigneur, je veux m'en rappeler aujourd'hui. Moi, je suis un prince héritier dans la maison de Dieu. Peut-être que mon char dans l'entrée ne le dit pas, mais ça, ce n'est pas important pour moi. Peut-être que ma tenue vestimentaire ne le dit pas, mais ça, ce n'est pas important pour moi. Moi, je sais devant toi, je suis un prince héritier dans la maison de Dieu. Donc, je veux me rappeler mon identité. Fait que des fois, je parle avec des chrétiens, puis ils sont là, puis ils disent, ah, écoute, Yannick, esclave, je suis pas bien avec ça. Mais d'une part, c'est clairement le langage de la Bible. Donc, étudie le sujet jusqu'à ce que ce soit quelque chose que tu puisses embrasser vraiment avec conviction. C'est vraiment le langage de la Bible. Il y a vraiment une différence entre le langage que les nations païennes utilisaient dans leur rapport avec leurs idoles, avec leurs divinités, et le langage que le peuple d'Israël utilisait dans son rapport avec Dieu. Et cette notion-là de doulos, on la retrouve encore dans le Nouveau Testament. Puis en fait, ça va aller plus loin que ça, dans le sens que Jésus lui-même s'est fait serviteur. D'accord? Donc, on a encore beaucoup plus de raisons d'aller jusque-là dans notre vision d'être un serviteur de Dieu. C'est juste que le mot serviteur, ça nous donne comme une petite chance de dire, « Ouais, mais tu sais, un waiter, c'est quand même payant. » Tu sais, puis je veux dire, s'il n'est pas content, il peut donner sa démission. Puis, pas un doulos, il ne peut pas donner sa démission. Il n'y a pas d'option de sortie là-dessus. Là. C'est à jamais, à jamais. Fait que ça fait partie du langage de l'Ancien Testament sur pour comprendre l'adoration. Donc, dans l'idée de l'Ancien Testament, l'adoration est quelque chose qui va engager tout mon être et qui va engager tout mon être concrètement dans le service de Dieu. D'une part au temple, d'accord? Mais d'autre part, tout ce que le peuple d'Israël faisait en prenant soin de la veuve et de l'orphelin, en laissant une part de son champ pour ceux qui sont pauvres, en s'abstenant du péché, en accueillant l'étranger comme eux-mêmes avaient été étrangers. Tout ce que le peuple d'Israël faisait était un service à l'Éternel. C'était un service à Dieu. Pas seulement ce qui se passait autour du temple, des offrandes, des sacrifices, tout ça, mais tout. Donc, l'adoration dans l'Ancien Testament, c'est une consécration de tout mon être envers un Dieu qui fait reposer sur moi son nom. Donc, on entre ensemble dans une alliance et ça va se traduire concrètement par un style de vie, une éthique de vie qui va communiquer, qui va rendre visible le fait que je porte le nom de ce Dieu-là. Si j'avais résumé un peu l'adoration dans l'Ancien Testament, ça se résume beaucoup à ça. D'accord? Et ça, c'est très différent de ce que les nations environnantes vivaient. C'est entre autres pour cela que lorsque Jésus vient, puis ensuite de ça, Jésus quitte, mais l'Église commence à se répandre dans l'Empire romain, on réalise qu'il y avait beaucoup de païens qui s'étaient déjà convertis au judaïsme. Parce qu'ils avaient été attirés par ce Dieu-là qui se démarquait complètement. D'abord, monothéiste, un seul Dieu, un seul Créateur. Mais c'est beaucoup plus riche que ça, parce que si vous prenez juste l'Ancien Testament, lorsque nous, on va vers l'Ancien Testament, des fois, on est choqué par la violence qui est présente, des choses comme ça, mais c'est vraiment une relation d'amour que Dieu a avec son peuple. C'est vraiment une relation passionnelle, c'est vraiment un Dieu qui prend soin, qui pardonne, qui restaure, qui relève, qui fait grâce, qui prend des indignes et qui leur donne une dignité. Et donc, lorsqu'on arrive à l'époque de Jésus, dans la Bible, lorsqu'on arrive même avec l'Église, il y avait déjà plein de non-juifs qui étaient des sympathisants du judaïsme puis qui étaient prêts à recevoir le message du Messie, de l'Évangile. Fait que, on a beaucoup de matière à couvrir ce matin dans la prochaine leçon, donc je ne voudrais pas trop m'étirer, mais j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à un élément de l'adoration dans l'Ancien Testament que j'aurais peut-être négligé ou qu'on n'aurait pas mentionné? C'est possible, là. Je ne prétends pas que c'est exhaustif, c'est vraiment un petit survol de l'adoration dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qu'on aurait oublié de mentionner? Oui, Gérard. Ensuite, Guillaume. Si on n'a pas de micro, je vais répéter, fait qu'on on va le faire. Bref.
Lorsque tu parlais tantôt au niveau de l'adoration,
oui.
on était aussi des serviteurs,
mm-hmm.
puis des esclaves.
Mm-hmm.
N'est-ce pas en retour de reconnaissance de ce que Dieu a fait, qu'il a fait de nous des fils de Dieu et qu'il a fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec Christ et qu'il nous a donné la vie éternelle? On s'offre en sacrifice vivant en reconnaissance.
Fait que tu veux mettre l'accent sur la notion de reconnaissance? C'est ça que tu veux dire? Oui, définitivement. Définitivement. C'est de la reconnaissance d'accepter joyeusement d'être un serviteur de Dieu. C'est par reconnaissance.
La reconnaissance est un niveau d'adoration très élevé.
Oui, définitivement. La reconnaissance fait partie de l'adoration. Définitivement. Oui, Guillaume.
Mm-hmm. Lorsque Dieu a donné la loi, il a dit, tu vas m'adorer en faisant ça.
Mm-hmm.
En offrant des sacrifices et en obéissant à la loi.
Ouais.
Christ est venu obéir à tout ça parfaitement. Et je rejoins Gérard dans ma reconnaissance, c'est que Christ a tout fait. Je n'ai pas à performer parce que Christ a performé à ma place. Cette reconnaissance-là me pousse à adorer et à dire, Dieu a tout fait pour moi. Je ne peux pas ne pas avoir cette relation qu'il désire avec moi, puis j'ai tout à gagner parce qu'il a tout fait pour moi. Fait qu'en reconnaissance que Dieu fait ce qui est pour mon bien, Dieu a fait ce qui était pour lui, Dieu a tout fait pour que moi je puisse vivre une vie de liberté, de paix, de joie, en me reposant dans ce que Christ a fait. Fait qu'il y a la notion d'obéissance, puis il y a des beaux textes là, dans Genèse 15 où ce qu'Abraham n'a pas à passer dans le fameux contrat où ce que Christ a tout fait, parce qu'il parle parce que c'est Dieu seul qui a passé entre les animaux,
ouais.
Et non pas, Abraham n'a pas eu à passer parce que le contrat, il était déjà, il savait qu'il ne pouvait pas le faire.
OK.
Puis Dieu l'a fait pour lui.
Je vais essayer de résumer ça, parce qu'on n'a pas de micro, là, puis c'est enregistré. Dans le fond, ce que tu amènes, c'est vraiment la notion d'obéissance. L'idée que, avec ce que Dieu, là où Dieu invitait Israël dans une alliance, puis c'est lui qui pourvoyait, c'est lui qui les purifiait par le sacrifice, c'est lui qui les rachetait d'Égypte, c'est lui qui les sauvait, c'est lui qui leur donnait même la terre promise, eux, par reconnaissance, sont appelés à être obéissants. Ça va dans ce sens-là?
Oui, puis on bénéficie de ça. Il y a comme deux aspects. Christ a tout fait, j'ai rien à faire pour mon salut. Par contre, Dieu dit, si tu obéis, tu vas avoir ma bénédiction. Mais il y en a une que tu n'as rien à faire, c'est la foi seule. Et l'autre, c'est les bénédictions que Dieu veut mettre sur toi, te bénir par ton obéissance, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous.
Oui. Fait que, peut-être une chose que je voudrais clarifier, il n'y a pas de changement entre l'Ancien et le Nouveau Testament par rapport aux moyens de salut. L'Ancien Testament annonçait, dans le fond, l'Évangile, annonçait le sacrifice de Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui rachète son peuple. Ils sont sauvés par grâce. Il va les chercher, ils sont indignes, ils sont esclaves en Égypte. Ils passent leur temps à prouver qu'ils sont indignes, d'accord? Donc, ils confirment constamment qu'ils sont indignes, même après avoir été rachetés. Et donc, c'est vraiment en offrant le sacrifice, ça symbolise le sacrifice de Jésus qui va revenir. Donc, ils sont sauvés par la foi, par la grâce. Comme on l'a mentionné, parce qu'ils sont sauvés, maintenant, ils entrent dans une alliance où ils vont vivre, ils vont avoir une éthique différente. L'obéissance et l'éthique, c'est la même chose. D'accord? On obéit en suivant le code d'éthique de Dieu, les lois de Dieu, comment nous, on est appelés à se conformer. Et donc, entrer dans cette alliance-là implique que je m'engage à être obéissant puis à suivre l'éthique de Dieu. Je suis rentré dans cette alliance-là par la grâce. C'est Dieu qui m'a sauvé. D'accord? Mais je m'engage maintenant, puisque je porte le nom de Dieu, à marcher dans les voies de Dieu. Lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, c'est pour ainsi dire la même chose qui va se passer. D'accord? Je vais clarifier ça un peu. Mais c'est pour ainsi dire la même chose qui va se passer. Puis on va même le voir ce matin dans 1 Pierre, les versets 1 et 2, parce qu'il y a une allusion directe à ça. Donc, lorsque j'arrive dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Christ meurt sur la croix pour mes péchés parce que je suis indigne d'être aimé de Dieu, je suis un pécheur. Puis ce qui me rend apte à être aimé de Dieu, c'est l'œuvre parfaite de Christ à la croix. C'est lui, le Fils parfait, qui a été parfaitement obéissant jusqu'à la mort sur la croix pour notre salut. Je suis pardonné de mes péchés, j'entre dans une alliance. J'entre dans cette alliance-là pour obéir. Et c'est ça que Pierre va dire. Lorsque Pierre va parler, c'est intéressant, il présente la Trinité dans le passage ce matin, puis on va le développer plus tantôt, c'est juste que c'est vraiment pertinent avec ce qu'on dit ici. Donc, on est choisi par Dieu le Père, consacré ou sanctifié par l'Esprit Saint, pour, en vue de l'obéissance et de la participation à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que tout l'Ancien Testament démontre que les sacrifices qui étaient faits étaient juste un symbole de quelque chose d'autre à venir et que le peuple d'Israël, par lui-même, n'était pas capable d'obéir à Dieu. Était incapable de marcher dans les voies de Dieu. C'est ça tout l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que progressivement, on voit annoncer dans l'Ancien Testament une nouvelle alliance où l'Esprit de Dieu sera donné au peuple de Dieu et ils seront rendus capables de marcher dans les voies de Dieu. Et donc, ce que l'Esprit vient faire en nous consacrant, c'est qu'il nous ouvre la voie pour obéir maintenant. Dans un sens, il n'y a rien qui a changé. Ce qui a changé, c'est que l'Ancien Testament était une pâle copie de ce que Christ accomplit dans le Nouveau Testament. D'accord? Et donc, j'obéis aujourd'hui, pas pour être sauvé, parce que j'ai été sauvé. J'obéis aujourd'hui, pas par mes propres forces, par la puissance de l'Esprit qui vit en moi. D'accord? Ce n'est pas la condition de mon salut, c'est le résultat de mon salut. Ça va? Excellent. Donc, on se tourne maintenant vers le Nouveau Testament. Puis, on va commencer avec le temple. On va commencer avec le temple parce que j'ai mentionné au début du cours, de l'Ancien au Nouveau Testament, il y a des éléments qui sont en parfaite continuité. C'est-à-dire, tu les découvres, par exemple, le Dieu qui se révèle. C'est vrai de Genèse 1 à Apocalypse 22. Tout le long, c'est Dieu qui se révèle. Et on va vers celui qui se révèle à nous. C'est en parfaite continuité. En fait, s'il y avait de quoi, ça va même en croissant. Jusqu'à Jésus, tu es toujours comme, on peut juste adorer le Dieu qui se révèle. C'est un élément qui est en continuité dans l'Ancien Nouveau. Il y a des éléments qui sont en discontinuité. Il y a des choses qui vont arrêter avec la venue de Jésus-Christ, avec son sacrifice à la croix, parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Elles annonçaient quelque chose, d'accord? Et puis, il y a des choses qui vont se transformer. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a encore des prêtres dans le Nouveau Testament? La réponse est oui. Ce n'est pas une question au piège, mais peut-être, fait que je vais vous éviter de tomber dans le piège. La réponse est oui, il y a plein de prêtres. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ font partie d'un sacerdoce royal. On est des intercesseurs. Donc ça, c'est un élément qui s'est transformé. Avant, il y avait une tribu qui composait les prêtres. Maintenant, on a... Est-ce qu'il y a encore un souverain sacrificateur dans le Nouveau Testament? C'est Jésus. Mais il n'y en a plus sur la terre. D'accord? On n'a plus besoin de nommer un nouveau sacrificateur à chaque année. On en a un, c'est Jésus, tout est accompli, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui se transforme. Il y a une transformation, ce n'est pas juste une continuité directe, il y a des choses qui vont se transformer. Maintenant, est-ce qu'on fait encore des sacrifices pour le pardon des péchés? Non, là, on est en discontinuité. Il n'y a plus de sacrifices pour les péchés. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient un sacrifice parfait, celui de Jésus. Il est accompli, c'est parfaitement accompli. Il n'y a plus de sacrifices à faire pour le pardon des péchés. D'accord? Est-ce qu'il y a encore des sacrifices d'action de grâce? Ah oui, par exemple. On donne nos vies. On donne nos vies comme des sacrifices d'action de grâce. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Hein? On place notre corps au service de Dieu. C'est un sacrifice d'action de grâce. Ah, il y a encore des sacrifices d'action de grâce. Mais ils se sont transformés. D'accord? Puis, même pas tant que ça, parce que finalement, les prophètes dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, entre autres, Ésaïe 58, on l'a vu un peu avec Dwayne Klein, Dieu, ce qu'il voulait vraiment comme adoration, c'était des choses qui n'étaient pas simplement dans le temple, mais qui se traduisaient par un style de vie vraiment, vraiment précis. Alors, avec la leçon 3, on entre dans le Nouveau Testament. Je suis dans mes notes pour l'énigme. Là, on est dans 3. Puis, on va peut-être se rendre dans 3B. D'accord? Vous aviez deux notes cette semaine, ou deux paquets de notes différents. Je suis au milieu de la page 2. Avec la leçon 3, nous entrons dans le Nouveau Testament et au fil des semaines, nous reverrons des thèmes de l'Ancien Testament évoluer, se transformer pour nous dévoiler l'adoration telle que le peuple du Nouveau Testament est appelé à le vivre. Pardon. Alors, pour les deux prochaines leçons, on se concentre juste sur les évangiles parce qu'il y a vraiment des choses. Il y a des choses que c'est juste Jésus qui les dit comme ça. Puis après ça, quand tu arrives avec les lettres, donc le Nouveau Testament, tu as les quatre évangiles, les actes, les lettres. Fait que quand tu arrives dans les lettres, puis même dans les actes, tu vois un peu comment les chrétiens ont compris ce que Jésus a enseigné, puis comment ils ont cherché à l'appliquer. C'est comme si le reste du Nouveau Testament, j'exclus, là, admettons, l'Apocalypse, là, qui est une autre révélation encore, mais tout le reste du Nouveau Testament, c'est une révélation par l'Esprit-Saint, comment on est appelé à interpréter, dans un sens, l'Ancien Testament puis les évangiles. D'accord? Moi, je vous encourage, quand vous arrivez avec des paroles de Jésus ou avec des paroles dans les Épîtres, puis là, vous dites, « Ah, moi, je suis plus à l'aise avec Paul. Je peux pas faire ça. J'ai pas la liberté de faire ça. » D'accord? Fait que quand je m'en vais avec Jésus, des fois c'est challengeant avec Jésus parce qu'il... D'abord, il enseigne comme un juif. Donc, c'est tranchant, avec des espèces d'hyperboles qui sont incroyables. Tu sais, ta main est une occasion de chute. Tu coupes ta main, tu sais. OK, est-ce que vraiment il veut que... Non, OK, il veut pas que je coupe ma main, tu sais. Fait que ça, c'est un style d'enseignement, faut le comprendre. Mais en même temps, Jésus a toujours l'air plus révolutionnaire que tout le reste du Nouveau Testament. Quand tu arrives dans les Épîtres, ça a toujours l'air comme... OK, fait que je pense que je vais aller voir Paul. De toute façon, les églises allaient mal, là, fait qu'on n'est pas supposé être parfait, là. On s'entend, tu sais, c'était n'importe quoi. Corinthe, tu veux te consoler, tu sais, tu regardes ton église, elle va pas très bien, tu vas lire 1 et 2 Corinthiens, puis là, tu te dis, ah, oh, finalement, on n'est pas mauvais, tu sais. Fait que, mais j'ai pas la liberté de faire ça. Il faut que je me promène entre les deux. Il faut que je comprenne ce que ces êtres qui demeurent pécheurs, c'est des saints, mais ils pêchent parfois, dans l'église, comment est-ce qu'ils cherchent à appliquer ce que Jésus venait enseigner. D'accord? Et un enseignant que moi j'aime énormément, Mark Dever, disait souvent, s'il y a des choses qui doivent être transformées dans l'assemblée, dans l'église locale, puis tu dis l'église ne ressemble pas à Christ, va dans les évangiles. C'est Jésus qui est le plus révolutionnaire de toute la Bible. Fait que va dans les évangiles, puis après ça, cherche comment ça s'est appliqué dans l'église à travers les épîtres. D'accord? Donc, on va passer un petit peu de temps dans les évangiles. Jésus est le nouveau temple. Si dans l'Ancienne Alliance, un bâtiment tel que le temple ou un rite tel que les sacrifices et l'autel semble être au centre de l'adoration, il en va tout autrement dans la Nouvelle Alliance. Nous ne trouvons plus d'édifice, plus ou pratiquement plus de rite, mais une personne au centre de la vie et de l'adoration du peuple de Dieu, soit Jésus-Christ. À travers les évangiles, nous verrons ensemble certains enseignements de Jésus sur les traditions d'Israël et leur accomplissement avec la venue du Messie. À travers les évangiles, nous voyons apparaître une toute nouvelle manière d'aborder l'adoration. Et donc, il y a des choses qui sont en continuité, puis il y en a d'autres qui vont complètement se transformer. Puis, c'est intéressant d'avoir quatre évangiles, parce que lorsque je vais dans Matthieu, je comprends des choses par rapport au temple. Quand je m'en vais dans Jean, je comprends d'autres choses par rapport au temple et puis par rapport à l'adoration. Au milieu de la page 3, comme le tabernacle, le temple était considéré comme le lieu de rencontre du ciel et de la terre, l'endroit où le Dieu transcendant se plaisait à manifester sa gloire au milieu de son peuple. En tant que représentation de la présence de Dieu au sein d'Israël et signe du règne divin, le temple était le point central de la vie des Israélites. Tout gravitait autour du temple. Pourtant, les Juifs pouvaient prier n'importe où, là. Dans l'Ancien Testament, même une fois que le tabernacle existe ou le temple existe, les gens prient n'importe où. Tu n'as pas besoin de te rendre là pour prier. Mais c'était le lieu de la promesse. C'était l'endroit... C'était l'alliance. entre Esther et moi, je porte mon alliance pour dire on est ensemble. On a fait une alliance. Le temple, c'était le lieu de l'alliance. Dieu avait promis que son regard serait toujours là. Et lorsque le peuple s'éloignerait et se repentirait, c'est au temple qu'il viendrait rencontrer Dieu. Tout gravite autour de ça, puis on a plein de choses à apprendre de ce qui se passe à l'intérieur même du temple pour nous aider à apprécier plus l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive dans le Nouveau Testament, puis il n'y a plus de temple. C'est-à-dire, il y en a un au début du Nouveau Testament, mais vous comprenez, pour l'Église, il n'y a plus de temple, puis je veux dire, ça ne peut pas être plus ce bâtiment-ci, là. Tout ce qu'il y a de religieux, c'est une croix, puis des fois, des versets qu'on affiche. Ça ne peut pas être plus séculier que ça ici. Là. On est dans une ancienne épicerie, dans un centre d'achat, d'accord? Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de pécher contre Dieu parce qu'on n'est pas dans un lieu religieux? Qu'est-ce qui évolue dans le Nouveau Testament pour que les chrétiens se mettent à adorer partout puis à servir partout? Perspective de Matthieu au bas de la page 3. Le Nouveau Testament commence par cette affirmation. Toute l'histoire d'Israël conduisait à Jésus-Christ qui en était le seul objectif. Jésus-Christ est la manifestation ultime et définitive de la présence de Dieu au sein de son peuple. Matthieu introduit sa généalogie, son récit de la naissance de Jésus et du choix de son nom par ces mots. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Cette généalogie reflète la montée en puissance et la chute de la dynastie davidique et suppose le rétablissement de cette lignée en la personne de Jésus. Donc, ce que Matthieu fait lorsqu'il commence son évangile, il dit « Jésus-Christ est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. » Toutes les promesses faites à Abraham, toutes les promesses faites à David viennent s'accomplir dans une personne, c'est Jésus-Christ. Lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, puis que je veux comprendre l'adoration dans le Nouveau Testament, rapidement à travers les évangiles, je vais en venir à comprendre que une personne vient remplacer un lieu. C'est la personne de Jésus-Christ qui vient remplacer le temple. Jésus devient l'endroit, si je peux dire, où je vais aller rencontrer Dieu. Parce que tout ce qui se passait dans le temple est accompli dans la personne de Jésus-Christ. Ça change énormément de choses. Lorsque l'apôtre Paul va dire que l'Esprit de Christ est venu faire sa demeure en nous, et là, il va avoir un paquet d'implications avec ça. D'accord? Il va avoir un paquet d'implications avec ça. Dans Matthieu 1, versets 22-23, tout cela arrive pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Donc ce nom symbolique-là qui est donné à Jésus, qu'on ne voit jamais utiliser finalement dans le Nouveau Testament, dit tout. Jésus, c'est Dieu parmi nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Le temple, dans l'Ancien Testament, c'était Dieu avec Israël. C'était ça le temple? Le tabernacle, hein, lorsqu'ils voyageaient, ils traînaient le tabernacle avec eux, ce qui voulait dire « Dieu est parmi nous ». Les autres peuples savaient ça. D'autres peuples ont même essayé de s'accaparer l'Alliance, l'Arche de l'Alliance. Si vous êtes dans le plan de lecture, on voit ça là, de ce temps-ci. Ils essayent de s'accaparer l'Arche de l'Alliance, puis ça ne se passe pas bien parce que Dieu ne peut pas être parmi eux parce qu'ils n'ont pas été consacrés. D'accord? L'Alliance doit être au milieu du peuple d'Israël. Donc le tabernacle, c'était Dieu au milieu de nous. Et lorsque les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament qu'un jour, un enfant naîtrait d'une vierge et qu'on l'appellerait Dieu parmi nous, ça veut dire que lorsque Jésus est là, Dieu est là. Jésus remplace littéralement le temple. C'est vraiment intéressant lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, puis qu'il y a la dernière description dans Apocalypse 21, puis on voit la Jérusalem céleste, puis là, t'es tout mêlé parce que tu as le temple, tu as la Jérusalem céleste, tu as l'Église, l'épouse, Christ est au milieu. C'est mêlant tout ça. Mais ce qu'on réalise, c'est que ce sont des métaphores qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Oui, Camille?
Une question.
Oui.
Est-ce que ça peut expliquer le fait que le temple vraiment représente la présence de Dieu? Mm-hmm. Ça peut expliquer
Super bonne question. Je vais juste la répéter, puis je suis pas sûr que je vais avoir une réponse. Je suis pas sûr qu'il existe une réponse définitive. On va plutôt se donner des pistes pour essayer de répondre à ça. Camille pose la question, est-ce que l'idée que le temple, c'est Dieu au milieu de nous, et le fait que par exemple, on attachait une corde après la cheville d'un prêtre lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, parce que s'il n'était pas pur, il pouvait mourir du coup, ou Uza qui va toucher à l'arche, puis boum, il est foudroyé. Alors que dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, il y a des apparitions de Dieu. En théologie, on appelle ça des théophanies. C'est Dieu qui apparaît. Au début, tu ne sais pas, des fois, tu penses que c'est un ange, puis là, tu réalises dans le texte que okay, ce n'est pas juste un ange, c'est l'ange de l'Éternel. Finalement, c'est l'Éternel qui est là, tu sais. Puis les gens sont dans la présence donc de Dieu, puis ils ne meurent pas. Est-ce que ce serait parce que Dieu n'est pas présent de la même manière? Je vais le résumer comme ça. Est-ce que, parce que ça va donner la piste de ce que je pense être peut-être la réponse, peut-être que Dieu n'est pas présent de la même manière. Lorsqu'il est dans le temple, puis lorsqu'il apparaît à des voyageurs, lorsqu'il apparaît à Abraham, lorsqu'il apparaît à Jacob, peut-être que Dieu n'est pas présent de la même manière. Je ne sais pas si c'est dans toute sa gloire. Fait que là, pour moi, c'est des spéculations qu'on est en train de faire parce que je ne pense pas qu'il y a une réponse définitive. Mais vous avez peut-être entendu l'idée que plusieurs, en fait, la majorité des théologiens vont émettre l'hypothèse que lorsque j'ai une apparition visible de Dieu dans l'Ancien Testament, à moins que ce soit comme sous la forme d'une colombe qui serait plutôt associée avec l'Esprit-Saint, lorsqu'il apparaît même sous une forme qui apparaît même comme une forme humaine. Par exemple, lorsque les messagers viennent auprès d'Abraham, tu réalises, OK, il y a trois individus qui sont là, puis là, il va y avoir toute une discussion, puis là, Abraham, à un moment donné, se met à leur parler comme si c'était Dieu, mais deux d'entre eux partent, puis ils s'en vont auprès de Lot, puis là, tu réalises qu'eux autres, c'est des anges, puis lorsqu'Abraham continue à parler, il est en train de parler avec Dieu, mais il était trois, donc j'ai Dieu qui est apparu sous une forme humaine. La quasi-totalité des théologiens disent probablement que j'ai une apparition dans l'Ancien Testament du Christ, d'accord, de la deuxième personne de la Trinité, parce que le Père est toujours invisible. Fait que moi, la piste que j'aurais, là, tu vois un peu où je m'en vais, là, c'est que mon impression, c'est que lorsque j'ai une théophanie dans l'Ancien Testament, à moins que ça pointe vers l'Esprit-Saint, je suis probablement en présence du Christ, et le Christ est la manifestation de la personne de Dieu qui peut nous être accessible à nous. Il peut nous être tellement accessible qu'il va devenir un homme puis qu'il va se laisser toucher. D'accord? Donc, lorsque Jésus est sur la terre puis qu'il est homme, bien, il est entièrement Dieu puis il est entièrement homme, puis là, on peut le toucher sans mourir. C'est plus que ça, il vient toucher au monde, il vient toucher aux impurs constamment, mais il est 100% Dieu, 100% homme. D'accord? Mais ce qui est beau avec Jésus, c'est qu'il est aussi le temple. Puis là, le temple, tu peux y accéder. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer aussi avec son corps glorifié, mais là, on pourrait écrire des chapitres là, là-dessus. Parce qu'après sa résurrection, c'est autre chose. Là. Il y a un corps glorifié. D'accord? Pardon? Puis on a un accès permanent à Christ, exactement. Mais on avait déjà comme un accès à lui, tu sais, lorsqu'il était sur la terre, dans son humanité. Fait que, oui.
Ça marche-tu, oui. En fait, je vais le trouver, là, je pourrais revenir, mais il y a un beau texte dans l'Ancien Testament où ce que Dieu lui-même touche les lèvres avec un tison.
Oui, oui, puis c'est dans Isaïe. Oui.
C'est Isaïe.
Ouais. En fait, il envoie un ange. Il envoie un ange. C'est pas Dieu qui le fait.
Mais le tison représente quand même.
Il représente Christ.
Alors, tu sais, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, on peut être en présence. Donc, qui Dieu a envoyé lorsqu'il y a des théophanies?
Oui.
Il y a une piste là.
Oui. Mais, fait que je pense que c'est une bonne question que Camille posait dans le sens que. Dans l'Ancien Testament, si tu voulais entrer dans la présence du lieu très saint, du Dieu très saint, du Dieu trois fois saint, tu devais te purifier avant. Puis tout ce qu'il va dire, admettons, à Moïse, c'est enlève tes sandales, tu sais, parce que c'est un lieu saint. Ouais, c'est quand même moins intense que sacrifier trois bœufs, là, tu sais. Fait que fais juste enlever tes sandales, tu sais. C'est, je veux dire, à la limite, des fois, je demande aux gens de faire ça chez nous. C'est pas très sain, tu sais. Fait que c'est comme moins intense. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui est là. Puis j'ai, mon impression, c'est que c'est ça. C'est que j'ai une manifestation du Christ. D'accord? Ça va être la dernière intervention. C'est super intéressant, hein? C'est intéressant. Camille. Juste une seconde, Camille. On va prendre le micro. Pour les gens de Sorel, ils ne font pas de télépathie encore.
C'est bon. Ça nous montre en même temps l'importance de venir à Christ avant d'entrer dans la présence de Dieu pour le jugement. Tiens, en fait, si dans le temple, le souverain sacrificateur rentrait impur et mourait, je veux dire, combien plus des hommes pécheurs lorsqu'ils vont se retrouver devant Dieu, le Père, dans le lieu, dans le, en tout cas, la place où il y a juste de la sainteté qui peut rentrer.
Oui.
Ça démontre l'importance
du sacrifice de Jésus pour entrer dans la présence de Dieu. Définitivement.
Donc, simplement.
C'est un des grands mensonges de la théologie libérale. Okay? La théologie libérale qui a emporté une grande partie du protestantisme, des églises protestantes, ils ont focusé sur l'accessibilité de Dieu à travers la personne de Jésus dans les évangiles. Oui, mais il touchait tout le monde, il aimait tout le monde, il prenait les enfants, donc Jésus aime tout le monde, il est accessible. Puis ils ont détaché ça de son œuvre à la croix. C'est comme s'ils ont arrêté de lire l'Apocalypse. Parce que c'est le même Jésus. Je donne souvent l'exemple, peut-être vous m'avez entendu dire ça, mais j'ai un ami qui a fréquenté l'Église pendant des mois ici, puis il n'a pas saisi l'Évangile. Puis il me disait souvent, « Yannick, moi, le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. Jésus, ça marche. » Puis je lui répétais, je disais, « C'est parce que tu n'as pas du tout compris Jésus. » Parce que tu n'as pas compris son message. Jésus parle plus de l'enfer que tout l'Ancien Testament en parle. Jésus parle du jugement final plus que tout l'Ancien Testament. C'est lui qui parle le plus de ces choses-là. Il n'est pas détaché de l'Ancien Testament. Donc, juste pour aller dans le même sens de ce que tu dis, Camille. Ouais, mais j'ai vraiment manqué mon coup complètement pour passer à travers la leçon 3. Au bas de la page 4, mais c'est super intéressant de ce qu'on discute, c'est très pertinent. Au bas de la page 4, puis je vais terminer avec ceci ce matin. La transfiguration dans l'Évangile de Matthieu est un des endroits où on voit justement que Jésus est l'accomplissement. D'accord? Moi, je vous encourage à prendre le temps d'aller le relire super attentivement, tout le récit de la transfiguration. Mais il y a vraiment l'idée que au début, tu as Jésus qui est là, il est avec ses disciples. Ensuite, tu as la loi et les prophètes qui apparaissent à travers Moïse puis Élie. Donc, tout l'Ancien Testament, dans un sens, figurativement, est présent avec Jésus. Et puis ensuite de ça, là, Dieu va parler à travers la lumière qui va être présente. L'Ancien Testament disparaît. Moïse et puis Élie disparaissent. Et puis, il y a juste Jésus qui reste rayonnant de gloire. Et donc, j'ai la présence de Dieu qui est là maintenant. Puis les disciples partent avec Dieu. Dieu le Fils. C'est ça qui se passe. C'est vraiment fascinant. La transfiguration, toutes les références que tu as dans l'Ancien Testament, qui sont là, les références sont là pour nous dire c'est vraiment lui l'accomplissement. D'accord? Le sabbat, je le mentionne dedans, le sabbat, c'est un autre exemple. Jésus est notre sabbat. Jésus est notre repos. C'est pour ça qu'il est le maître du sabbat. D'accord? C'est lui qui est notre repos. Fait que les chrétiens ont conservé une journée, la première journée de la semaine, qui était consacrée à se réunir en église. On le voit très tôt dans les actes. D'accord? Donc, ce n'est pas que les chrétiens ont arrêté ça, mais ils l'ont déplacé du samedi au dimanche, volontairement pour dire, nous, on n'a plus besoin du sabbat comme le sabbat de l'Ancien Testament. Parce que c'est Christ qui est notre sabbat, c'est Christ qui est notre repos. Quand un chrétien est fatigué, spirituellement, accablé, la première personne vers qui il doit courir, c'est vers la personne de Christ. Pas vers Netflix. Vous comprenez? Je suis accablé, je suis fatigué, j'ai une journée, c'est comme, c'est lourd, puis j'appréhende la journée de demain, tu sais, fait Je vais m'ouvrir une bière, puis je vais écouter une télésérie sur Netflix. Puis peut-être que c'est correct, vous comprenez? Vous savez que j'aime une bonne bière, je ne veux pas scandaliser personne. Puis j'aime Netflix aussi. Je pourrais vous partager quelques séries que j'ai aimées. Mais ce n'est pas ça mon point. C'est que ce n'est pas ça mon sabbat. Ce n'est pas ça mon repos. Mon repos, c'est Christ. Et lorsqu'on est entre frères, hein, je peux faire la même chose. Hein? Je ne vais pas bien, je suis accablé, c'est lourd. Je décide d'aller voir Antoine et dire, « Antoine, il faut qu'on sorte ensemble. J'ai besoin d'être avec un frère. » Puis si Antoine veut prendre soin de moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, « Viens Yannick, je vais te raconter l'Évangile encore une fois. » C'est lui qui va le faire, mais il va me raconter l'Évangile encore une fois. Parce qu'il sait que mon âme est accablée. Il a besoin de m'amener à aller dans mon repos, la personne de Jésus-Christ. C'est bon? On va s'arrêter ici. On va aller avec un mot de prière. Antoine est disponible pour faire ça quand vous voulez. Hein? Si vous êtes accablé, allez voir Antoine. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es. C'est un grand privilège de te connaître puis d'avoir une compréhension aussi de ces choses-là, Seigneur. Ce n'est pas des sujets faciles. C'est des sujets qui se comprennent bien quand on a une connaissance assez générale de la Bible. Mais plus on apprend à la connaître, plus, Seigneur, ta parole est vraiment délicieuse parce qu'on découvre combien tu nous as aimés, Seigneur. Seigneur, viens prendre soin de nous, Jésus, en nous apprenant à t'aimer, à venir t'adorer, te célébrer. Dans quelques minutes, on va s'accueillir les uns les autres, on va chanter des chants, on va aller dans ta parole, Seigneur. Puis on veut être des adorateurs en esprit et en vérité ce matin, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.